Radio Okapi.
Journal présenté par Jocelyne Moussaou Pondé.
Débat sur la révision constitutionnelle à quelques mois des élections générales de 2023. Trois initiatives sont déjà déposées à l'Assemblée nationale. Persistance de l'insécurité dans ces zones d'intervention. L'ONG Médecins sans frontières suspend toutes ses activités en RDC à partir de demain et ferme carrément ses projets de Nizi et Bambou dans la province de Litouri. Jean-Paul Capitula, responsable de la protection civile dans la ville de Béni, est notre invité. Son service a identifié au moins 15 000 déplacés internes dans 20 quartiers de cette ville. Bonjour à tous. À quelques mois des élections générales de 2023, le débat sur la révision constitutionnelle refait surface. Trois initiatives de révision constitutionnelle sont déjà déposées à l'Assemblée nationale. Un collectif des députés nationaux plaide pour la programmation du débat sur la révision de la loi fondamentale au cours de cette session, alors que d'autres jugent cette révision, qui devrait porter essentiellement sur certaines dispositions liées au système électoral congolais, inopportune. Michel Kifindangoy.
Si Marie-Ange Loukiana propose la création d'un poste de vice-président de la République, Délice Sanga plaide pour le rétablissement de deux tours de la présidentielle et la démission du chef de l'État si le corps électoral n'est pas convoqué trois mois avant les élections.
La plupart des dispositions de la Constitution peuvent être révisées. Mais il y a des dispositions qu'on ne peut pas revenir sur ces dispositions. C'est le cas. La durée et le nombre de mandats d'un président de la République.
Steve Mbikaï, lui, prône pour le rallongement du mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans et la suppression de certaines institutions budgétivores comme le Sénat.
Il y a des collègues qui sont opposés à une révision constitutionnelle et il y en a d'autres qui sont pour une révision et certains d'autres comme moi par exemple qui sont pour carrément le changement de la constitution.
Pour le député John Banza, il y a plus urgent dans le pays que la révision de la constitution.
Il serait plus utile de donner des pistes de solutions pour que le mandat qui nous est donné puisse être beaucoup plus fructueux que de penser à un éventuel rallongement du nombre d'années.
John Banza invite le Parlement à travailler sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais.
Et puis Steve Mbikaï, lui, propose le passage du mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans, la suppression de certaines institutions qu'il juge budgétivores, notamment le Sénat, et aussi passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Pour sa part, Gershom Kaebe, initiateur du parti dénommé La Dynamique Umoja, rejette cette idée. Dans une déclaration hier, lundi à Radio Okapi, ce Congolais résident aux États-Unis d'Amérique estime, selon lui, que la priorité attendue du gouvernement actuel, c'est l'organisation des élections libres et crédibles en 2023. Il est joint par Alain Hong.
Je voudrais demander à ceux qui sont en train d'initier le projet de modification de la Constitution d'arrêter cette aventure-là. Le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas la Constitution, c'est plutôt la gouvernance. Tout ce que nous demandons au gouvernement congolais actuellement, ce n'est pas la modification de la constitution, ce n'est même plus les routes, ce n'est plus le courant, ce n'est plus de l'eau. C'est tout simplement les élections libres et crédibles en 2023. Parce que ce que ce gouvernement n'a pas pu faire en 4 ans, il ne le fera pas en quelques mois. Et donc, il ne peut plus rien offrir aux Congolais à part les élections. J'en profite pour interpeller les députés qui sont les représentants du peuple. Je leur demande d'écouter ce peuple, de respecter et de faire respecter la volonté et les choix de leurs élus.
Je l'ai annoncé dans les titres, Médecins sans frontières décide de suspendre toutes ses activités en RDC à partir de demain, 23 mars 2022. MSF décide aussi de la fermeture de ses projets à Nizi et Bambou dans la province de Litouri. Cette décision annoncée hier lundi au cours d'un point de presse à Kinshasa a fait suite à la persistance de l'insécurité et c'est aussi une façon pour MSF de marquer sa solidarité envers les autres humanitaires. Par ailleurs, l'attaque perpétrée contre un convoi humanitaire de MSF le 20 28 octobre 2021 par des hommes armés non identifiés sur la route entre les localités de Kobu et Bambou dans les territoires de Djougou justifie l'arrêt des activités de MSF dans cette province. Au cours de cette attaque, deux membres du MSF avaient été grièvement blessés par balle. Aubin Abedi pour les détails.
Selon le responsable de Médecins Sans Frontières, la décision de fermer les projets de Nizi et Bambou s'explique notamment par l'absence prolongée de garanties de sécurité de la part de différents acteurs qui s'affrontent dans la région. Toujours selon eux, au lendemain de l'incident, Médecins Sans Frontières avait appelé publiquement le parti au conflit à deux réactions. La condamnation ferme de cette attaque et un engagement fort en faveur du respect des droits internationaux humanitaires. Médecins Sans Frontières avait également demandé aux autorités d'ouvrir une enquête sur cet incident grave, mais pas de résultat jusqu'à ce jour. Olivier Mazouet de Médecins Sans Frontières Genève annonce la suspension de tous les projets de son organisation sur tout le tendu de la République démocratique du Congo.
Le 23 mars, tous les projets de Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo seront suspendus. Toutes nos activités seront suspendues, mis à part les activités médicales d'urgence. Le sens de cette suspension, c'est à la fois un geste de solidarité entre collègues humanitaires, mais c'est aussi un moyen d'alerter tant au niveau national qu'au niveau provincial et même au niveau local tous les acteurs armés ou non armés pour bien faire comprendre que cette violence contre la mission médicale des hôpitaux, des centres de santé n'est pas une chose qui doit arriver.
Olivier Maizoué ajoute que MSF continuera néanmoins à apporter une assistance humanitaire en Ituri, à Drodro et Angoumou, où l'organisation est présente depuis plusieurs années. Pour Nizi et Bambou, des donations des médicaments et des matériels médicaux sont prévues pour aider les acteurs de santé à couvrir les mois à venir. Les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, victimes des massacres à travers différents coins du Congo central, vont bénéficier de la justice transitionnelle. Leurs bourreaux, qui se promènent aujourd'hui en citoyens libres, répondront bientôt de leurs actes devant les instances compétentes. La déclaration est du ministre des Droits humains. Albert Fabrice Puella s'est ainsi adressé aux habitants du Congo central, représentés par les autorités traditionnelles. C'était hier lundi, lors du lancement dans cette province des consultations populaire sur la justice transitionnelle. Le point avec Nana Plourich-Mambou.
Dans son mot de bienvenue, le gouverneur intérimaire du Congo central s'est réjoui du lancement de ses opérations dans sa province. Selon lui, cela tombe à point nommé car le Congo central a aussi été victime des atrocités qui ont occasionné la perte en vies humaines. Il a cité notamment les récents massacres des adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala ainsi que les passages des troupes rebelles en 1998. De son côté, la directrice adjointe du cabinet du président de la République en matière de justice a invité tous les Congolais à s'impliquer dans le processus de la justice transitionnelle en vue de freiner toute violation des droits humains. Nicole Boitia.
Notre pays a connu des périodes sombres entraînant ces lots de malheurs que nous connaissons tous. Alors qu'elle amorce sa marche vers l'émergence, la RDC a besoin de l'implication de toutes ses filles et de fils pour que la justice soit rendue dans un contexte où il ne régnera plus d'instabilité politique, des divisions sociales, de la haine tribale, de la sécurité physique.
Le ministre des Droits humains a, au nom du gouvernement, demandé pardon à Genoué au peuple Mukongo. Signe, selon lui, de la recherche de la paix et de la réconciliation, gage du redressement social et économique de la nation congolaise. Albert Fabrice Puella a promis que les adeptes du Bundudia Congo obtiendront réparation. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Rappelons que la justice transitionnelle à travers ses quatre piliers dont la vérité, la justice, la réparation et la garantie de non-répétition s'occupe des victimes des violations de droits humains en s'attaquant aux auteurs du crime. 24 condamnations, 4 acquittements, verdict prononcé le week-end par le tribunal militaire garnison de Goma siégeant en chambre foraine dans le territoire de Rutshuru. La plupart des condamnés étaient poursuivis pour infraction de cas de vol, viol et meurtre commis entre novembre 2020 et janvier 2022. Denise Lukeso nous en dit plus.
La plus lourde peine est infligée à un prévenu civil d'une vingtaine d'années. Ce dernier a écopé la peine de mort pour les cas de kidnapping ainsi que le décès de la victime. Les autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme. Maître Bernadette Mounounou, responsable du volet juridique au sein du consortium qui a appuyé ces audiences, dit être satisfaite de cette décision. Elle encourage la population à dénoncer tous les cas de viol pour que justice soit faite.
Nous sommes satisfaits. C'est parce que dans 10 jours, on a obtenu 28 jugements, donc c'est déjà bien, parce que la loi veut que les cas de viol soient traités avec célérité. Un seul message, c'est lui de les appeler à dénoncer les cas de violence basés sur les genres dont ils sont victimes et dans leurs milieux respectifs. Parce que la justice est là et la justice fera bien son travail une fois les cas est dénoncé. Vraiment, la population peut compter à la justice congolaise. La justice est là.
Deux autres dossiers ont été renvoyés aux audiences foraines de Mounzindé. Le tribunal s'est vu dans l'impossibilité de finir leur instruction. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
À Kananga, une cinquantaine d'OPJ de la police nationale congolaise sont en formation depuis hier lundi autour des matières liées à leur travail et l'élaboration des procès-verbaux. Cette session de 5 jours est organisée par l'unité d'appui à la justice de la MONUSCO. À en croire le chargé de la formation au sein de la police en province, le souci est d'aider les apprenants à améliorer leurs prestations et éviter les différentes erreurs relevées. Le commissaire principal François Hardy Badibanga est au micro de François Kadima.
Souvent, lorsque les OPJ prestent, il y a le procureur général et le procureur de la République qui s'indignent de la façon dont ils présentent les procès-verbaux à beaucoup d'erreurs de fond et de forme. Alors, il a plu à nos partenaires et à notre commissaire provincial qui est en déplacement pour organiser cette formation en vue de renforcer les capacités de nos OPJ. Nous voudrions qu'à l'issue de cette formation, que les OPJ puissent vraiment apporter le meilleur d'eux-mêmes, hein, améliorer la façon de rédiger les procès-verbaux et surtout appliquer les notions de droit qu'ils auront apprises.
Le programme de développement local de 145 territoires, PDL, devrait être soumis à certains préalables dans les deux provinces sous état de siège, à savoir le Nord-Kivu et l'Ituri. C'est ce qu'estime un député provincial élu des Lubero. Le député Eze Kanindu propose une administration civile afin de permettre à l'armée de se concentrer sur des zones où l'on enregistre encore des poches de résistance d'insécurité. Il demande au chef de l'État des pouvoirs démilitariser l'administration durant la période de la mise en œuvre du dit programme. L'élu de Lubero l'a dit à Kinshasa, où il participe, comme ses collègues, à un séminaire de formation et de sensibilisation sur le programme de développement local des 145 territoires. C'est pour que les députés s'en approprient. Le député Eze Kanindu est au micro de Denise Lukeso.
Pour ce qui est de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, province sous état de siège, où l'administration a été confiée entre les mains des militaires, en écartant les élus provinciaux à la gestion de leur propre province sans aucun moyen de contrôle de l'exécutif provincial, ce programme risque de ne pas produire des résultats escomptés par le président de la République suite à sa militarisation sans aucun moyen de mécanisme de contrôle comme garantie. Comment un militaire censé être sur la ligne de front peut commencer à construire ou réhabiliter des routes, écoles, hôpitaux, cultiver des manioc, alors que l'ennemi n'est pas encore mis hors état de nuire? Nous demandons au président de la République de démilitariser la gestion de ces derniers en impliquant les personnes capables de comprendre le programme et sa mise en œuvre.
Notez que le PDL vise à moderniser les territoires de la RDC.
Actualité internationale.
La justice russe interdit Facebook et Instagram et déclare Meta la maison mère, organisation extrémiste. Un tribunal de Moscou a estimé hier lundi que les deux réseaux sociaux menaient des activités extrémistes. L'application de messagerie WhatsApp, elle aussi détenue par Meta, n'est pas concernée par cette mesure. Au Burundi, l'interdiction de circulation des deux roues respectée, mais aussi critiquée, la mesure qui interdit les taxis moto et taxis vélo dans la plus grande partie de la capitale burundaise, Bujumbura, est entrée en vigueur depuis hier lundi et a été respectée à 100%, s'est réjoui dans un tweet l'administrateur de la commune de Mukaza, une mesure loin de ravir pourtant les usagers.
L'invité.
Au moins 15 000 déplacés internes ont été identifiés dans 20 quartiers de la ville de Beni par le service local de la protection civile. Il s'agit des personnes qui ont fui les attaques des ADF dans les différentes localités du territoire de Beni et de la province voisine de l'Ituri. Dans quelles conditions vivent ces déplacés et quels sont leurs besoins les plus urgents? Le responsable de la protection civile dans la ville de Beni, qui est notre invité, répond à ces préoccupations. Jean-Paul Capitula s'entretient avec Martial Papimukeba.
Jean-Paul Capitula, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut savoir de votre rapport intitulé « L'enrôlement des déplacés internes dans la ville de Beni » ?
De ce rapport, nous devons retenir qu'il y a d'abord un apport qui était qualitatif et quantitatif du ACER pour que nous puissions réaliser cette activité, mais aussi l'engagement du maire. Aujourd'hui, les résultats de ce rapport est élément capital et doit nous amener à capitaliser les efforts fournis pour ce rapport. Nous avons à identifier dans tous les quartiers. Il y a presque une vingtaine de quartiers qui ont eu à donner vraiment rationnellement des informations. Et à la tête, c'est le quartier Mabolio qui a beaucoup de déplacés.
Il y a combien de déplacés aujourd'hui internes dans la ville de Beni? Combien de femmes? Combien d'enfants? Leur situation?
Ici, on peut retenir plus légèrement le chiffre global, comme je l'ai dit. 5394 ménages sont dans la ville de Beni. Et là, c'est en date de 19 décembre où on avait clôturé cet enrôlement. Ces ménages sont dévalués à 15 072 personnes.
Ces déplacés qui sont aujourd'hui dans la ville de Beni viennent essentiellement de quelles zones?
Les grandes zones dans lesquelles viennent se déplacer, nous avons la zone de l'Ituri qui est toujours en ébullition depuis novembre dernier, vous le savez. Il y a la partie de l'Ituri dans les territoires d'Irumu, notamment les Mambelenga, Ido et j'en passe. Nous pouvons revenir vers la partie ouest de Wicha, Mamove, Chan-Chan et les autres parties, mais aussi la grande partie de Biakato, et c'est toujours à territoire de Mambasa, mais à province de l'Ituri, Makumo, Lukaya, Bela, Nziapanda, Makiki, même ceux de Mangina. Et actuellement, c'est la partie aussi est. Vous trouvez que Mutuanga, avec des secousses sur Boulongo et autres, même dans les Bachou, dans les Kavasewa, il y a toujours des déplacés aussi qui viennent de là. Donc, cette couche ici, elle est mixte. Elle est vraiment une couche mélangée des gens qui viennent de plusieurs provenances. Et c'est là aussi qui constitue la grande problématique où ces gens éprouvent des énormes difficultés.
Dans quelles conditions vivent ces déplacés dans la ville de Beni?
Aujourd'hui, ce sont des conditions déplorables. Nous sommes en train de pousser avec nos plaidoyers. Et nous pensons que ces cris ici va autant arriver à temps pour dire que les déplacés ne sont pas assistés. Parce que depuis qu'on a fini l'enrôlement, depuis qu'on a partagé le rapport, il y a toujours des promesses des humanitaires qui veulent venir en appui. La plupart ont perdu même leur cabane. Il y a ceux qui ont eu à abriter des maisons inhabitées. Et j'ai un rapport ici de la pluie du 7 au 8 mars qui n'a même pas laissé se déplacer aussi indifférents. Ils ont été victimes de cette pluie torrentielle.
Ils sont dans les familles d'accueil?
La plupart dans des familles d'accueil. Mais il y a aussi des sites qui ont été mis à place depuis 2020. En commune de Rwenzori, je veux parler par exemple au niveau du quartier de Kassabignolé. Au niveau de Tamende, à la CEPAC, dont 8e CEPAC Tamende, au niveau de l'Est City Alpha. La commune de Bungulu, au niveau de l'école kimbanguiste de Mangoté. Mais il y a aussi une école CK20 à Mangoté qui a aussi un site. Voilà les quelques sites que je peux retenir dans la ville. Mais aussi au niveau de la commune toujours de Mulekera, à la paroisse kimbanguiste. Il y a aussi un autre site et que nous avons mis à place avec le fonds de Yasser.
Quels sont les besoins de se déplacer et quelles sont aussi vos recommandations?
Ils éprouvent des énormes difficultés. D'abord, pendant ce moment, vous le savez, nous avons une carence en eau. Qu'en sera-t-il avec le déplacé, lui qui n'a même pas l'argent pour acheter de l'eau? Ils ont un problème d'abri. Ils ont un problème du vécu quotidien. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas de soins. Et donc, mon appel, c'est de dire que le gouvernement fasse tout son mieux pour que la situation des déplacés soit améliorée. Mais aussi, vous savez, on peut toujours donner des réponses subsidiaires aux déplacés, mais cela n'est pas une réponse satisfaisante. Mais ce qui est très très important, c'est vraiment de finir la guerre et de ramener ces gens dans leur milieu pour qu'ils vivent aussi dignement comme les autres.
Jean-Paul Kapitula, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.